Bonsoir à tous et à toutes. Vous connaissez donc la chanson de Charles Trenet, Il y a de la joie. Dans cette chanson, il y a un petit passage sur un percepteur partant en week-end qui illustre parfaitement la problématique que nous allons décortiquer ensemble ce soir, à savoir les rapports entre la joie, la liberté et cette anti-liberté que constitue le service. Je vous laisse découvrir ce petit passage. Voilà, donc ces trois phrases simples qui décrivent le parcours d'une vie. Donc vous voyez, je dormais et je rêvais que la vie n'était que joie. Je m'éveillais et je vis que la vie n'était que service. Je servis et je compris que le service était la joie. Cette parole a été écrite par un écrivain indien qui s'appelait Rabindranath Tagore. Et elle décrit le parcours d'une vie et illustre la joie qui peut résulter de l'amour qu'on reçoit, mais aussi de l'amour qu'on donne. Le mouvement chassidique Chabad Lubavitch a depuis plus d'un siècle fondé sa vision du service religieux sur la joie. Et Yuval Noah Harari, bien que juif non religieux, dans son dernier livre « Les 21 leçons pour le 20e siècle, le 21e siècle », a valorisé le modèle sociétal israélien en disant « Certes, ces juifs ultra-orthodoxes sont pauvres et sans emploi, mais enquête après enquête, ils déclarent des niveaux de satisfaction plus élevés que tout autre groupe de la société israélienne. Cela tient à la force de leurs liens intercommunautaires, ainsi qu'au sens profond qu'ils trouvent dans l'étude des Écritures et l'accomplissement des rituels. Une salle pleine d'hommes juifs discutant de Talmud pourrait garantir plus de joie, d'engagement et d'intuition qu'un immense atelier clandestin où triment des travailleurs du textile. Dans les enquêtes mondiales de satisfaction, Israël se classe habituellement parmi les premiers, en partie grâce à la contribution de ces gens pauvres et sans emploi. En analysant les syllabes que contient le mot « simcha », qui signifie donc « joie » en hébreu, nous allons remettre en cause le lien qui unit service et joie. Mais il y a joie et joie, et il existe en effet deux types d'émotions positives, l'un temporaire aigu, qui peut être parfois précédé d'émotions négatives, telles que la peur, la tristesse ou l'amertume, on dit en hébreu « maror », en particulier à Pâques. Il sera souvent accompagné de manifestations motrices telles que l'excitation, l'agitation des mains, des trépitations des pieds, avec des danses. Et danse en hébreu, ça se dit, enfin, entre autres, machol. C'est la joie et le plaisir. Au maximum, c'est la gaieté, l'allégresse, ça sonne, avec deux signes, comme dans le superlatif italien allegrissimo. Je vous rappelle que allegro signifie rapide. On pourra noter en hébreu la similitude du mot sasson avec sous, le cheval qui court vite, et avec zouz, le mouvement. Là, vous savez que la mezouza qu'on accroche à nos portes est là pour nous rappeler que nous déplaçons d'un espace à un autre et que Dieu doit être à nos côtés dans ses déplacements. Alors, il existe aussi une joie plus chronique, qui est aussi positive et qui est plus calme, c'est le bonheur. Léa a été heureuse d'avoir des enfants. Elle a transcrit cette émotion dans les prénoms de deux d'entre eux, Gad et Asher. Elle a éprouvé, avant même qu'ils ne le disent, ce qu'a ressenti l'écrivain indien dont j'ai parlé au début de mon exposé. Pour certains, le bonheur est lié à la présence de personnes agréables à leur côté. On dit des personnes naïm, nermad ou arev. Et d'autres trouveront leur bonheur dans la méditation solitaire. C'est la béatitude, la sérénité, la satisfaction sur son sort. L'argent est-il nécessaire pour accéder au bonheur ? Pas forcément, diront certains. Coluche disait en tout cas, si l'argent ne fait pas le bonheur, il permet au moins de faire les courses. Si nous travaillons dans de bonnes conditions, que nous avons un bon salaire, alors on peut dire que le service est la joie. Mais hélas, ce n'est pas toujours le cas de nos jours. Par contre, la liberté est source de joie. Et ce n'est pas Norbert qui dira le contraire. En effet, bien que je n'ai pas pu assister à la dernière réunion avec Ludmila Mampoya, j'ai écouté avec plaisir sur le site de la JCF sa conférence et ai été interpellé par une citation de Mathieu Ricard, moine tibétain bouddhiste, scientifique contemporain d'origine aixoise et installé au Népal, et qui disait « La joie est la fleur de la liberté ». Mais revenons quelques instants sur la joie et sur le mot « simra ». Sa racine peut se décomposer en deux radicaux, « sim » et « mar ». Que veut dire le radical « sim » ? Eh bien, le verbe « lasum » signifie « mettre », »,« poser », »,« établir », »,« placer », »,« imposer ». Dans les nombres 11-11, Moïse se plaint à Dieu dans ces mots. « Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu as mis, » il a dit donc « lasum », »,« la charge, et masso », sur ce, de tout ce peuple-là, sur moi. Dans la Amida, nous terminons la prière en disant « Sim Shalom Tova Uvracha » qui signifie « établis la paix, le bien et la bénédiction ». Le radical « Sim » fait aussi partie du mot « Simla » qui veut dire « vêtement ». Et on retrouve à plusieurs occasions dans la Torah ce mot Simla. Donc il y avait Sem et Yafet qui prirent un vêtement qu'ils posèrent sur ses épaules à propos de Noé qui s'était retrouvé nu après avoir bu du vin. Après, ils déchirèrent leurs habits dans Genèse 44, 13 à propos des fils de Jacob en apprenant que Benjamin, le fils Benjamin, resterait prisonnier de Joseph. Ensuite, il y avait « Le peuple emporta sa patte avant qu'elle ne fût levée. Ils enveloppèrent leur pétrin dans leurs vêtements et les mis sur leurs épaules. » Au moment de la sortie d'Égypte, nous en reparlerons dans un instant. Et puis ensuite, il y a « Car c'est sa seule couverture, c'est le vêtement pour son corps, à propos des gages vis-à-vis d'un pauvre. » Et enfin, « Elle ôtera de dessus de soi » les vêtements de sa captivité, dans Deutéronome 21-13, à propos d'une femme prisonnière qu'on souhaiterait épouser. Passons maintenant au radical « mar ». On retrouve ce radical dans le verbe « limchot », qui veut dire « effacer », et « limrok », qui veut dire « supprimer ». Dans le Talmud, parmi les 39 travaux interdits à Shabbat, on peut noter qu'il est interdit d'effacer plus de deux signes ou de deux lettres. On utilise le mot « morek ». Cette liste a été établie par rapport aux gestes qui sont nécessaires pour la construction du temple. Donc, il paraît logique d'interdire, selon la Torah, d'effacer deux lettres ou plus, puisque c'est au contraire un travail destructeur. sauf si cet effacement permet de réécrire. Et à ce moment-là, ça devient un effacement constructif. Quel est l'intérêt d'effacer, de détruire, si ce n'est pas pour reconstruire? On a l'habitude de dire, on efface tout et on recommence. J'étudie régulièrement avec Gérard Manon, qui est ici avec nous, le Talmud, et nous avons eu l'occasion de discuter de tatouage. Quand nous nous sommes posé la question suivante, si le nom de Dieu est gravé sur notre bras, a-t-on le droit de l'effacer? Dans la mesure où il est interdit d'écrire son nom, ce devient une mitzvah de l'effacer, même un jour de Shabbat. Mais si vous voulez en savoir plus, vous pouvez, avec son autorisation bienveillante, vous connecter au site très enrichissant qu'il a créé depuis 2 ans, dont vous trouverez l'adresse sur la diapo, onglet Torah oral, chapitre « T'as tout compris ». Dieu nous demande également de nous rappeler et de transmettre à nos enfants qu'ils souhaitent effacer, il dit Macho ou Emre, le souvenir d'Amalek. L'Éternel dit à Moïse dans l'Exode, consigne ceci comme souvenir dans le livre et inculque-le à Josué, que je veux effacer la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Et il rappelle ce message paradoxal dans le Deutéronome, tu effaceras, Timré, la mémoire d'Amalek de dessus le ciel, ne l'oublie pas. Dans le psaume 30, David énonce une phrase qui semble également comporter un paradoxe. Tu as changé mon deuil en danse joyeuse, tu as dénoué mon cilice et de la joie, tu m'en as fait une ceinture. Comment peut-on éprouver de la joie lorsqu'on est contraint par une ceinture ? Eh bien, on peut répondre à cette question par le fait que qu'avoir des enfants autour de soi procure de la joie. De plus, il peut être rassurant de donner des limites à sa liberté. Dans ce même verset, il est question également de danse joyeuse, qui se dit en hébreu, on l'avait vu tout à l'heure, machol, qui contient aussi le radical mach. On retrouve même ce même terme dans le psaume 150, Allélu, Batof ou Machol, louez-le par le tambourin et par des danses. Et si on décompose la racine Machol, on trouve le Mach, qui veut dire effacer, et Chol, qui est l'ordinaire, par opposition au sacré. Le restant de la semaine, par opposition au Shabbat. Et quand je vois ces enfants qui dansent sur cette diapo, ça me rappelle une chanson qu'on apprenait à l'école, que vous n'avez peut-être pas connue, dont les paroles étaient « Vive les vacances, à bas la pénitence, les cahiers au feu et la maîtresse au milieu. » Les vacances permettent à l'enfant de récupérer, de se reconstruire, mais ne durent qu'un temps. C'est aussi la fonction des fêtes. À plusieurs reprises dans la Torah, Dieu nous demande de nous reposer et de faire la fête, « Chag ». Dans la joie, Sameach, dérivé de Simcha. Donc quand on dit bonjour, on dit Hag Sameach. Alors dans la Torah, on dit, donc tu fêteras 7 jours en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi, car il te bénira, l'Éternel, ton Dieu, dans tous tes revenus, dans tout le labeur de tes mains, et tu pourras t'abandonner à la joie. Et on notera au passage que la fête est limitée temporellement, 7 jours, et spatialement, dans le lieu qu'il aura choisi. Cette joie nous est même paradoxalement imposée. Et parce que tu n'auras pas servi l'Éternel ton Dieu avec joie et contentement de ton cœur, au sein de l'abondance, tu serviras tes ennemis, suscités contre toi par l'Éternel, en proie à la faim, à la soif, au dénuement, à la pénurie absolue, et ils mettront sur le cou un joug de fer jusqu'à ce qu'il t'ait anéanti. Pâques, Pessah pour nous, va nous servir de modèle pour bien comprendre ce que représente la Simcha. Pour nous, Pessah symbolise la sortie d'Égypte, l'arrêt des travaux qui ont été imposés aux Hébreux et l'acquisition de la liberté. Mais pour cela, nous devons agir vite et être mobiles et légers. C'est cette légèreté qui nous permet de danser dans la joie. La matza, galette que les Hébreux n'ont pas eu le temps de laisser lever, est le symbole de la hâte avec laquelle nous avons dû prendre la route de la liberté. Contrairement au pain, chametz, la matza ne contient pas de levain, qui est fabriqué, vous le savez peut-être, à partir de vieux pain. Et comme le suggère le frère Jean-Philippe Revel de la paroisse Saint-Jean de Malte à Aix-en-Provence, on a un pain tout neuf qui correspond à un renouveau total avec effacement du passé. C'est un petit peu comme si, pour construire une maison, on rasait l'ancienne pour construire une maison neuve, au lieu de faire une rénovation de l'ancienne. Et on ne peut s'empêcher de faire la relation entre ce pain des nouveaux et le Nouveau Testament qui efface l'ancien. À noter que l'hostie qui est consommée lors de l'Eucharistie est faite comme la matza avec du pain azim. L'œuf de Pâques est également, qui est également dans le plateau du Seder que nous fêtons à Pessah, symbolise une renaissance, un renouveau en tant qu'être libre, mais ce n'est pas une révolution car elle s'est faite sans violence. Dieu a agi pour nous. D'ailleurs, dans les bénédictions du matin, on dit « Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, matir asurim ». Ça veut dire « Béni soit l'Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui délivre les prisonniers ». C'est lui qui nous accorde la liberté. Cet œuf est détaché de notre agneau pascal intérieur, qui est aussi pesant que le cœur du pharaon, chargé de péché, c'est le chet de chametz. Cet animal qui nous en est soumis, épuisé et amer, maror, nous le laissons sur le pas de la porte de la maison et on le laissera se consumer complètement jusqu'au lendemain afin de pouvoir renaître vierge et libre. Mais cette coupure avec le passé est temporaire. Elle dure 7 à 8 jours. Le temps de la fête, le temps d'un rendez-vous, on dit en hébreu moed. Comme un adolescent qui quitte ses parents pour faire sa vie et renouer par la suite avec eux, nous allons remanger du pain chametz, retrouver nos racines. De même, les chrétiens, après avoir rejeté l'Ancien Testament, vont le reconsidérer. Cette rupture temporaire a permis un recadrage. Il m'arrive d'ailleurs, dans mon exercice, de voir des patients exploités par leur patron. Et un arrêt de 8 jours permet parfois à ces derniers de prendre conscience de l'abus de pouvoir qu'ils ont sur leur employé. Mais après, il est important que ces employés reprennent leur travail après cette coupure pour ne pas rentrer dans la spirale de la désocialisation. Et de même, avec les enfants rois désobéissants, une punition ne doit pas s'éterniser vie, quoi. Il faut à un moment reprendre les relations normales. À Shavuot, la Pentecôte, nous sommes joyeux de constater que peu de choses sont imposées sur le plan religieux. Cela nous encourage à accepter le cadeau des 10 paroles que nous offre l'Éternel. À Sukkot, fête des cabanes, nous avons plusieurs raisons d'être joyeux. Comme à Pessah, nous sommes libérés des contraintes de la sédentarité. Nous sommes libérés du jugement divin qui planait sur nos âmes comme une épée de Damoclès depuis le début de l'année, qui est à Rosh Hashanah. Hein. Vous savez qu'il y a 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, le grand pardon. Et puis après, il y a ces fêtes de Sukkot qui sont les fêtes de libération de ce jugement divin. Et Dieu, en plus, nous accompagne dans cette joie en nous apportant une pluie nourrissante. Sans oublier la joie hebdomadaire du Shabbat, qu'on appelle Oneg Shabbat, délice du Shabbat, qui va nous permettre de nous libérer de nos contraintes professionnelles et des tâches qui nous sont imposées pendant la semaine pour profiter des joies de la famille et de communiquer avec nos proches pour peu qu'ils respectent l'interdiction de se servir du portable, de l'ordinateur, de la télé, au moins le temps d'un week-end. Pour résumer les choses, on peut dire que la simcha, c'est effacer ce qui est imposé, mais de manière temporaire. Un dernier exemple pour illustrer ce que représente la simcha, c'est la joie du mariage. Dans le Deutéronome, il est dit « Quand quelqu'un prendra une nouvelle femme, il n'ira point à la guerre, on ne lui imposera aucune charge, mais il sera exempté dans sa maison pendant un an. Il réjouira la femme qu'il aura prise. » Nous avons commencé notre exposé avec Charles Trenet, nous le terminerons avec lui. Dans la chanson « Le soleil a rendez-vous avec la lune », il évoque la nécessité périodique de se libérer de ses contraintes et obligations professionnelles pour honorer un rendez-vous avec les siens et prendre le temps de leur dire qu'on les aime à l'occasion d'une fête religieuse rythmée par les astres. Ainsi, le service sera vraiment la joie. Mais avant de vous faire écouter la chanson de Charles Trenet, je répondrai à vos questions et à vos remarques.
À plusieurs reprises, je lis Dieu des points IEU.
Oui, ça c'est des remarques de style, c'est vrai, parce qu'on n'a pas le droit d'écrire normalement le nom de Dieu en entier, donc des fois on met un point pour dire qu'on n'a pas écrit, parce qu'on ne doit pas prononcer le nom de Dieu en vain. Voilà, c'est ça le principe. Merci.
C'est une convention qui est très exactement liée à ce que tu as expliqué, c'est-à-dire l'effacement, puisqu'il est interdit d'effacer le nom divin. Si on écrit le nom, on risque de l'effacer en jetant un papier à la poubelle sur lequel il y aurait le nom, etc. Donc là, en ne l'écrivant pas selon la graphie normale, on se prémunit contre ce risque. Voilà. On n'est pas obligé de le faire. Hein. Parce que là, c'est l'alphabet, ça reprend ce qu'on disait tout à l'heure. C'est de l'alphabet latin, donc on n'est pas...
Oui, voilà, ça joue pas. Oui, c'est pas comme si on écrivait le nom en hébreu.
Oui, je n'avais pas réalisé, alors est-ce que j'ai bien compris, qu'on peut associer la joie avec un temps de pause.
Oui, c'est-à-dire que ça doit être quelque chose de fini, enfin de défini. Il ne faut pas que ce soit la joie. C'est comme si on disait, si on avait du soleil, la canicule, 365 jours, 365, je pense qu'on ne l'apprécierait pas. Si c'est un moment, un petit moment comme ça, dans le week-end, comme ça, ou un moment de fête, à ce moment-là, on l'apprécie complètement parce que ça va nous couper vraiment de la semaine, ça va nous couper de nos soucis, de tous nos tourments, et on va pouvoir l'apprécier à sa pleine valeur.
Alors, est-ce que ça veut dire que cette joie peut être un moment, un temps de rupture par rapport au quotidien?
Oui, tout à fait, c'est le but, tout à fait. La simcha, c'est la joie de la fête. Enfin, on arrête le quotidien et on rentre dans un autre monde où justement on se retrouve en famille, où on peut profiter de son être en tant qu'homme et non pas comme professionnel, disons.
Alors ça peut rejoindre le Shabbat, là.
Tout à fait, oui. La joie du Oneg Shabbat, on dit Oneg Shabbat, c'est la joie, le délice du Shabbat. C'est quand on se coupe de la vie de tous les jours, on arrête les ordinateurs, on arrête les téléphones portables et on se retrouve en famille à discuter, à échanger. Et c'est un peu ça le but de la simcha de Shabbat.
D'accord, donc il y a vraiment beaucoup de joie dans le Shabbat.
Absolument, comme dans toutes les fêtes, hein. C'est le propre de toutes les fêtes. C'est pour ça qu'on dit toujours Hag Sameach, la fête de la joie. Et vous avez vu que si on ne prend pas cette joie, ben on risque d'avoir des sérieux coups de bâton. Hein. Les paroles sont dures hein, dans ceux qui profitent pas de leur joie.
Et est-ce qu'on peut le relier au repos? Est-ce qu'il y a un lien entre...
Je crois que c'est surtout la coupure. Enfin, c'est la coupure.
Plus la coupure que le repos.
Voilà, ouais, tout à fait.
Merci. Dieu ne s'est pas reposé. le septième, il s'est retiré. Donc c'est pas le mot repos souvent, c'est pas le bon mot, c'est vraiment la joie. C'est vraiment le Shabbat, il peut y avoir un tracas.
Merci. Patrick, je voudrais te remercier pour ce soir et pour tout ce que tu nous offres, parce que ta personne même, ta personnalité, symbolise par excellence la joie.
Il a toujours le sourire aux lèvres, Patrick.
Toujours le sourire.
Toujours.
Et c'est précisément ce qui symbolise mon attachement personnel si intense au judaïsme. La joie de l'étude, tu ne cesses d'étudier et d'éprouver la joie que procure précisément l'étude. Mais ce que je trouve surtout remarquable chez toi, c'est cette joie de transmettre, qui est le but même de ton étude, de partager, de rayonner ce que tu as acquis et que tu nous aides à acquérir. Et la joie pour chacune et chacun de nous de bénéficier de cette richesse offerte ce soir, mais tout au long de l'année, par tout ce que tu nous offres, et de nous comporter d'une certaine manière, en juif, dont le mot signifie merci, je crois.
Oui, mais Yehudi.
Voilà, pour Yehudi, grâce, merci.
Remercier Dieu.
Merci beaucoup.
Grâce à Dieu. Oui.
Je voudrais simplement dire que ce monde de la joie s'est vraiment manifesté dans le monde juif avec les chassides. Ouais. Dans le monde chassidique, il y a largement plus d'une centaine d'années, dans tout ce qu'on appelait le Yiddishland, c'est-à-dire ce monde de l'Europe centrale, de l'Europe de l'Est, ces pays où il y avait tellement, mais tellement de malheurs, de pogroms, de viols, de meurtres, de choses absolument horribles, pratiquement jusqu'à la Shoah. Eh bien, il a fallu pour que le cœur des juifs qui ne faisaient qu'étudier, pour la plupart, travaillaient dur, étaient très pauvres, pour beaucoup, étudiaient toujours et toujours le Talmud, la Torah. Il est certain qu'il y avait besoin de créer un mouvement. Et ce mouvement a été créé par des êtres absolument extraordinaires qui existent encore, dont tu as parlé aujourd'hui, le monde des Lubavitch, et qui... Même si vous allez sur un site qui s'appelle Chabad, c'est Chabad, il est magnifique. C'est un site purement, vraiment juif, mais qui ne parle que de joie pour chaque parachute, chaque paracha que nous avons les samedis à étudier. C'est tout le temps dans la joie. Et ce monde qui dansait, là voilà c'est eux. Heureusement, je crois qu'ils ont été là. Parce que même si on les critiquerait aujourd'hui par leurs habits, leur façon d'être, on les prend pour des gens bizarres, ils ont un cœur et une âme et un mysticisme extraordinaire qui permet vraiment de vivre dans la joie, parce que c'est, je le redis presque toujours, c'est vraiment très difficile d'être juif, même aujourd'hui.
Non, le verbe machol, la danse,
voilà,
c'est effacer l'ordinaire. Comme
voilà.
Ça,
et les danses sont tellement joyeuses. Et nous, à l'Assemblée Générale là, de Rennes, il y a eu deux jeunes femmes, toutes jeunes, qui racontaient Nora Bissalet, et tout en yiddish, et disant, mais j'entendais ça quand j'étais petite, ça, c'était quoi là, Nora Bissalet. Alors elle a cru que c'était un prénom, Nora. Non, c'était Nor Abyssel, juste un petit peu. Et ce tout petit peu, bon, elles l'ont chanté dans la joie du klezmer. Vous les connaissez, les musiques klezmer. C'est extraordinaire. Et on a vraiment, vraiment beaucoup besoin de ça. Mais je crois qu'on n'est pas les seuls à avoir besoin de ça dans le monde juif. Tout le monde a besoin de joie, et surtout aujourd'hui, et puis d'espérance pour la suite. Est-ce qu'il y a encore des questions ou des commentaires?
Moi, j'avais une question anecdotique. Pourquoi est-ce qu'il faut oublier le nom d'Abimelech?
Amalek. Il faut l'oublier, puis en même temps, il ne faut pas l'oublier.
Non, oui, parce qu'il y a à la fois, il faut se rappeler de l'oublier comme ça.
Voilà, c'est ça. Paradoxal. Il faut se rappeler qu'il a existé, que le mal existe, il faut s'en souvenir.
On n'en est jamais totalement débarrassé.
Et voilà.
C'est toujours quand il vient toujours par derrière, il vient nous attraper. Il faut garder cette vigilance.
Ouais. Il faut toujours oublier, mais il faut toujours aussi aller
vers son futur. Sachant que pour nous, il est en nous aussi.
Et là aussi, la joie, c'est quelque chose de profond en chaque être humain qui existe, qui est un don, qui est un don de Dieu. Mais pour aller chercher la joie dans nos vies aujourd'hui, ce n'est pas évident. Ça demande un très gros effort d'introspection. Et pour ça, il y a la prière, la méditation, la détente, et puis, bien sûr,
je crois qu'il y a encore une question. C'est pas une question, parce que c'est un débat très long. J'étais un peu surpris quand vous disiez que le Nouveau Testament effaçait le Premier Testament.
Moi aussi.
Alors, il y a eu une période où ça a été le cas.
Ça a été une hérésie qu'on appelle les martionnites, qui ont voulu supprimer le Premier Testament, mais ça n'a jamais été accepté. Les martionnites, les martions.
Mais ça a duré longtemps quand même.
Voilà, mais bon, après, on a quand même toujours bataillé pour garder l'ensemble.
Mais c'est vrai que la démarche quand même d'effacer, ça peut donner une liberté d'esprit de reconsidérer les choses et finalement d'être libre de penser, quitte à reprendre après les sources. Moi, je trouve que c'est pas mal des fois de laisser un peu tout de côté, de réfléchir par soi. Et puis, on peut se confronter avec le passé. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure pour les enfants. Si un enfant, il reste tout le temps chez ses parents, il ne pourra pas construire sa vie parce que la femme, elle va tout dire, ah, mais elle est toujours avec son père, avec ses parents. Enfin, on a besoin d'un moment d'isolement, de coupure avec les générations génératrices. Pour pouvoir construire sa famille, une fois qu'on a créé son couple, à ce moment-là, on présente aux parents, on réétablit des relations, mais ce temps de séparation me paraît quand même indispensable.
Non, mais je suis d'accord. Je pensais notamment, il y a le 24 juin, c'était hier, non ? C'était la fête de Saint-Jean-Baptiste pour nous, et il y a un texte à son sujet. Lorsqu'il est né, tout le monde, on devait l'appeler comme son père, Zacharie. Et puis, la maman a dit, non, il s'appellera Jean. On a demandé au père qui était muet, comment il faut l'appeler ? Jean est son nom. C'est-à-dire, c'est une nouveauté.
Mais c'est quelque chose quand même qui est très profondément juif. Enfin, la séparation, la mila, c'est la coupure. Il faut qu'il y ait une coupure avec les parents, hein. Et je disais, j'en ai souvent parlé dans mes commentaires, mais vous savez qu'il y a une petite phrase où on dit « Tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère ». On peut imaginer que le chevreau, c'est l'enfant juif, et il faut que l'enfant puisse voler de ses ailes sans avoir besoin du lait de sa mère pour toute sa vie. Il ne faut pas que ce soit un tanguy. Il faut qu'il prenne son indépendance, qu'il crée qu'il se fasse sa propre vie.
Sa personnalité.
Ça, c'est très proche. On peut considérer même que les parents peuvent être quelque part un peu le pharaon. Il faut qu'ils sortent de l'Égypte, qu'il faut qu'ils se libèrent et qu'ils se créent eux-mêmes. Et je pense même sur le plan psychologique, c'est très utilisé dans la thérapie.
Bien sûr, c'est indispensable même, sans trop de heurts. Tu voulais, Solange ?
Oui, moi je suis très contente de ce qu'a dit le père Alain, parce que justement, moi je suis très choquée quand on dit que le Deuxième Testament efface le premier. Parce que pour moi, alors c'est le scandale absolu de dire ça, bon, ça me choque vraiment, parce que je me dis que les liens, ils sont partout, c'est comme les fibres d'un même tissu, on ne peut pas se séparer. Et j'aime bien quand Gérard, qui est près de nous, là, nous dit, je me demande comment vous, chrétiens, vous comprenez quelque chose à l'Évangile si vous ne connaissez pas bien la Bible. Et je suis entièrement d'accord avec ça.
D'où ce retour, et heureusement que tu as parlé de ce retour, parce que je serais intervenue aussi, parce que ça choque beaucoup. Bon, il a fallu presque 2000 ans, hein, 19 siècles de grands malheurs quand même, pour qu'il y ait un retour vers le frère aîné, voire vers les jumeaux.
Juste deux choses pour compléter. La première, c'est que personnellement, en tant que chrétien protestant, j'apprécie justement... Généralement, il y a trois lectures, que ce soit chez les catholiques ou chez les protestants. Et souvent, il y a au moins une, voire deux lectures. La première ou les deux premières lectures se sont situées dans le Premier Testament, souvent un psaume. Et ça, c'est donc extrêmement important. Alors, c'est vrai qu'il reste encore, il ne faut pas être naïf, il reste encore chez certains... y compris chez les protestants d'ailleurs, le sentiment que le Second Testament, moi je préfère dire Second et Premier, non, donc le Second Testament, c'est le Dieu de la miséricorde, c'est le Dieu de l'amour, contrairement un peu au Premier Testament où le Dieu est jaloux et colérique et... Et moi, je ne suis pas d'accord. Et j'étais très heureux d'entendre l'autre jour un invité, alors j'ai plus son nom en tête, un invité de ce que j'appelle, celui que j'appelle Mao, qui n'a pas le livre rouge, mais Marc-Alain Wachnin, qui disait, c'était peut-être bien David Bannon, je ne suis plus sûr parce que j'en ai écouté deux de suite et je ne suis plus sûr, mais peut-être David Bannon, qui disait, mais c'est complètement faux, parce que et le livre de Jonas, Jonas lui-même dit, il reproche même à Dieu d'être trop miséricordieux. Donc ça veut dire que l'amour, l'attention bienveillante, la miséricorde, elle ne se situe pas, je ne sais plus s'il y a on va en changer bientôt d'ailleurs ça, ça ne se situe pas uniquement dans le Second Testament, c'est déjà présent dans le Premier Testament, et c'est bien une manière de nous relier au Premier Testament, et donc à ce qu'on doit à nos frères aînés, nos amis juifs.
Merci. Je pense que peut-être, si nous voulons... Si, il y a encore, parce que si vous voulez profiter du repas, qui ?
J'aimerais parler comme quelque chose d'incontournable dans la culture juive et qui certainement est relié à la joie, c'est l'humour juif. Là, on n'en a pas parlé et je crois que cet humour, et nous en profitons, nous chrétiens, aujourd'hui, va nous aider. C'est un chemin, cet humour, pour nous réconcilier et retrouver la joie. Qu'en penses-tu, Patrick ?
Complètement, oui, c'est vrai, c'est vrai.
Il y a d'ailleurs un très gros livre de Marc-Alain Wachnin et de son épouse, c'est le dictionnaire de l'humour juif. C'est extraordinaire. Et il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Et il y a une petite blague comme ça, mais je ne suis pas sûre, je ne voudrais pas dire trop de bêtises, mais d'un père justement et d'un fils, et le fils admire le père et dit, mais moi je vais faire comme mon père. Et on lui dit, mais attends, là, c'est pas tout à fait ça que tu fais. Ton père faisait, il disait, mon père fait comme moi, mais ne copie pas. Et donc le fils effectivement dit, bah vous voyez, je ne copie en rien, je fais comme mon père. Bon, je suis pas sûre de bien la raconter cette blague, mais ça rejoint tout à l'heure que le fils ne doit pas faire comme le père, et même s'il a l'admiration du père et de dire, bah je fais comme mon père, c'est-à-dire je fais pas bien. C'est surtout, c'est vrai que je ne veux pas bousculer ou... Voilà, bien sûr, pour la chanson, bien sûr, pour qu'après on puisse se régaler.